Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu 2 heures d'informations médias et culture au sens large avec un menu très riche. Notre infomédia, l'affaire Yann Moix qui n'en finit pas et qui atteint maintenant l'Espagne. On en parle avec notre correspondant en direct depuis Barcelone. En France, l'affaire littéraire devient médiatique avec des déflagrations jusqu'à France Télévisions où au cœur de la maison Grasset, éditeur du romancier, on a des infos exclusives. Je n'oublie pas nos invités. François Bunel, présentateur de la Grande Librairie, qui reprend ce soir sur France 5 pour sa 11e saison et qui aurait dû avoir comme invité Yann Moix, qui s'est lui-même décommandé. Attention, citation, un pays où Isabelle Huppert est considérée comme la plus grande actrice est un pays qui va mal. Cette punchline est signée Éric Neuhoff, journaliste, romancier et critique de cinéma. Il sort un pamphlet incendiaire contre le cinéma français intitulé « Très cher cinéma français ». Il sera notre invité. On vous fera également entendre en avant-première le nouveau titre de Christophe Maé. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, riche programme. Bonjour Céline Dacosta.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 11h.
Oui, j'ai dit 20h,
mais
c'est
11h.
Oui, j'avais écrit 11h en plus.
Bonjour Philippe Bourdel, bonjour à tous.
Bonjour à tous. Et comme tous les jours, on démarre avec vous, Pierre Desereaux de Pure Média. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
C'est les audiences télé, le 20h, voilà pourquoi je me suis trompé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé?
Hier soir, c'est TF1 qui s'est classé en tête des audiences avec de nouveaux épisodes de la saison 2 inédite de la série américaine, soit 3,6 millions de Français, 17,9% du public, ont suivi les aventures de Shemar Moore et de son unité d'élite. Et c'est France 3 qui est deuxième avec de nouveaux épisodes de Soupçon, sa mini-série française avec Julie Gayet et Bruno de Brandt. Ça marche. La suite de ce drame sur l'adultère, c'est la première série française inédite de la saison de la 3, a permis à la chaîne de rassembler 3,4 millions de téléspectateurs, 17% du public.
Les autres chaînes,
France 2 est troisième avec un joli score pour un nouveau numéro de son magazine Les Pouvoirs Extraordinaires du Corps Humain, présenté par Michel Simès et Adriana Carambeu. Et ils étaient 3 millions hier soir, 15,1% du public à avoir suivi cette soirée consacrée au décrassage de notre corps, tout un programme.
Ah bah oui, tu m'étonnes.
Et donc au pied du podium, on retrouve M6 avec le retour de Maison à Vendre. Dans ce nouvel inédit, Stéphane Plaza venait en aide à Monique, Stéphane et Delphine, on les embrasse. Et cette nouvelle soirée immobilière sur la 6 a passionné 1,9 million de téléspectateurs, 9,8% du public, petit score pour la 6.
Et puis on continue de s'intéresser à la guerre des accès entamée hier.
Voilà, jour 2 pour Babette Lemoine, Yann Barthès, Cyril Hanouna et Mouloud Achour, le dernier arrivé de la bataille. Donc en bref, C'est à vous est en légère baisse, 885 000 téléspectateurs, 5,9% du public sur France 5, ça reste pas mal. Clique en partie 2 sur Canal+, 124 000 téléspectateurs, 0,6% du public, c'est faible. Quotidien sur TMC, toujours leader des talks, 1,2 million de téléspectateurs, un pic à plus de 1,7 million de téléspectateurs. Enfin, Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, diffusé de 20h45 à 21h15, 1,1 million de téléspectateurs, c'est moins que Quotidien, 5,2% du public.
Il n'en a pas tout à fait toutes les audiences, on en reparlera, parce qu'ils ne démarrent pas tous évidemment à la même heure, ni ne finissent à la même heure. Merci Pierre, à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Et devinez quoi, chers amis, c'est l'heure du journal des médias. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous avez terminé votre décrassage?
Oui, ça va.
Alors, Il y avait du boulot. Hein.
Je vous en prie, c'est Céline Dacosta.
Les attaques personnelles.
Pas d'attaques personnelles dans cette émission. La vie privée
est
privée.
On peut si vous voulez. Mais
non, moi je ne veux pas. On va faire le tour de l'actu des médias. On va commencer par M6 qui continue son mercato.
Et oui, deux nouveaux visages annoncés hier lors de la conférence de rentrée de la 6. Le premier est en fait un revenant. Michael Youn est de retour sur M6, 17 ans après l'avoir quitté. À l'époque, il animait l'emblématique Morning Live. Cette fois, il aura carte blanche pour deux soirées que la chaîne annonce déjantées. Et le deuxième, c'est Yann Arthus Bertrand, le réalisateur et photographe, grande figure de la lutte en faveur de la protection de la planète. M6 diffusera son prochain documentaire intitulé Legacy.
On commence à en savoir un peu plus sur la future loi audiovisuelle, Cyril.
Franck Riester, le ministre de la Culture, a dévoilé hier midi quelques-unes des principales pistes de sa réforme. Elles concernent d'abord les chaînes de télévision qui auront moins de contraintes. Par exemple, terminer les jours où elles n'ont pas le droit de diffuser du cinéma, car oui, en 2019, ça existe encore.
Le samedi soir, par exemple.
Voilà. Je vais vous les citer, effectivement, aujourd'hui TF1, France 2 ou M6 ne peuvent pas programmer de films, alors vous l'avez dit, le samedi soir, mais aussi le mercredi soir, le vendredi soir, le samedi c'est même toute la journée, et pas de films non plus avant le dimanche 20h30. Elles pourront désormais proposer 244 soirées de cinéma par an, tous les jours qui leur semble bon. Autre mesure, à venir, il pourrait y avoir une troisième coupure de publicité dans les films qui dure plus d'une heure et demie. Ça ne fera pas plaisir aux téléspectateurs, mais que voulez-vous, ça mettra un peu de beurre dans les épinards. Enfin, un des axes centraux de cette réforme, c'est de faire participer Netflix, Amazon, bientôt Disney, au financement de la création. En fait, les mettre au même régime que les chaînes françaises, la fin d'un déséquilibre en somme, même s'il va falloir se montrer très convaincant face aux puissants géants américains, bien décidés à éviter de passer à la caisse.
Cyril, une triste nouvelle, serait-ce la fin de l'amour ?
La fin de l'amour, non, Philippe, non, mais la fin du like, peut-être. Le like, vous savez, c'est ce petit pouce bleu sur lequel vous cliquez quand quelque chose vous plaît sur Facebook.
Ouais.
Un geste devenu si commun que même le terme like est entré dans le langage courant et se décline même en verbe, tu vois. Toi, Philippe Vandel, je te like.
Ouais, je ne peux pas de me tutoyer.
Eh bien, figurez-vous que Facebook étudie non pas sa disparition, pure et ouais. simple, hein, pas folle, la guêpe, mais plutôt de ne plus montrer combien de fois votre super photo ou votre génial punchline a été liké. Une manière pour Facebook d'éviter que ses utilisateurs passent trop de temps à se comparer les uns aux autres.
Je te follow, je te like, je te lol. Hashtag, je suis content. Un smiley, t'es vu, je suis jaune.
C'était la voix de qui ?
De Franck Dubosc.
C'est pas la première idée que Facebook développe en ce sens, Cyril.
Oui, l'entreprise teste déjà dans 7 pays la suppression du compteur j'aime, le like, qui accompagne les photos sur Instagram. Instagram qui appartient à Facebook. Mais pour le moment, silence radio sur les premiers résultats de ce test.
Alors, les Césars des médias, c'était hier soir. Ça s'appelle le Grand Prix des médias et c'est organisé par le magazine CBNews.
Et oui, hier soir, Salvagram à Paris, tout le joyeux petit monde des médias était réuni pour se faire des papouilles. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les récompenses, sinon on va y passer l'émission, mais tout de même, je vous signale...
Ni la liste des papouilles.
Ah ça, c'est plus discret. Je vous signale quand même que c'est MyTF1 qui a gagné le prix de la meilleure plateforme numérique, LCI celui de la meilleure chaîne, la plateforme de vidéo Loopsider, la meilleure stratégie sociale média, c'est à vous le talk de Babette Lemoine, la meilleure émission de télé, et Radio France, le grand prix des médias. Et juste pour le plaisir, on écoute la pub de Burger Quiz, qui a gagné justement le prix de la meilleure pub.
Ok Google, où y a-t-il une pizzeria à proximité ?
Il y a plein de pizzerias à proximité, tu connais le quartier.
Ok Google, qu'est-ce qui se passe ?
Non, il se passe que tu me laisses toute la journée, voilà ce qui se passe.
Ok Google, tu me fais une crise de jalousie ?
Je fais pas une crise de jalousie, simplement je vois que je suis là que pour répondre aux questions, quoi.
Ok Google, mais c'est un petit peu ce qu'on s'était dit au départ, quand même, dans notre relation.
Oui, 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 et ben je me suis attaché, voilà.
On s'attache vraiment, quel talent. On vous reprendrait bien une petite dose de G7.
Et avec plaisir, et je suis sûr que nos auditeurs également.
Mais oui.
Ce soir, CNews propose un documentaire sur les coulisses du sommet qui s'est déroulé fin août à Biarritz. Les journalistes de la chaîne ont pu suivre Emmanuel Macron durant 48 heures dans son bureau du G7 avec ses conseillers lors de certaines rencontres. Bref, ils étaient partout, même lors de la rencontre du président avec le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohamed Javad Zarif, invité surprise du sommet.
À cet instant précis, Emmanuel Macron abat ses cartes. Cette rencontre est décisive. La réussite de son G7 en dépend. Javad Zarif, en chemise blanche, fait face au président. D'un sourire synonyme d'embarras, le ministre iranien nous demande de quitter la pièce.
La musique n'est pas du tout anxiogène, hein.
On
dirait « faites entrer l'invité ».
L'accusé.
Ouais, l'accusé. Même là-dessus, je le rate.
Qui sera accusé. Tout au long de ces 26 minutes, CNews nous montre également Emmanuel Macron débriefer son G7 avec ses conseillers. Une séquence qui rappelle plusieurs docs tournés lors de la campagne présidentielle de 2017. On l'écoute ici en train de parler de Donald Trump.
Il faut lui reconnaître, il sait très bien négocier un deal. Et donc, s'il disait là, je reconnais, à la minute d'après, Rouhani dit, moi, je veux pas.
Ouais, bah oui, il veut pas.
Non, mais donc, il a fait le maximum. Il faut l'expliquer à la presse, d'ailleurs. D'être une puissance médiatrice, ça suppose qu'il faut accepter d'avancer avec une série d'inconnus, il faut faire attention. Il faut dire ce qui est d'ailleurs, parfois, le faire à ciel découvert ne nous aide pas. Hein.
Ouais.
Oh, bien sûr. C'est beaucoup plus dur que faire un deal il y a 50 ans. Hein.
Avec Emmanuel Macron dans les coulisses du G7, c'est ce soir sur CNews à 21h.
Thank you, I see you in New York. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye, on se voit à New York. C'est tout pour ce journal des médias. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. À demain.
Merci.
Europe 1. L'infomédia du jour arrive avec au programme ce matin les suites de l'affaire Yann Moix qui dépasse nos frontières. Vous en parlerez Philippe Vandel avec notre correspondant en Espagne Henri Delaguerie dans un instant dans Culture Média sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Les suites de l'affaire Yann Moix, c'est dans l'infomédia du jour, Philippe Vandel. Et pour en parler, on va retrouver notre correspondant Henri Delaguerie en direct de Barcelone.
Alors l'affaire Yann Moix, on l'a dit, qui n'en finit pas de rebondir. Je vais tenter de la résumer pour qui arriverait à l'instant. Le romancier fait scandale avec son roman Orléans, paru chez Grasset. Il y raconte les sévices que lui auraient fait subir ses parents pendant son enfance. Punitions, coups, brimades. Sauf que la famille Moix, parents et le frère, contestent ces allégations. Puis, l'Express exhume des dessins de jeunesse et des écrits antisémites de Yann Moix dans une sorte de revue étudiante qui portait pour titre Ushuaïa, calembour entre Ushuaïa et Shoah. Yann Moix était l'invité samedi de l'émission de Laurent Ruquier On n'est pas couché sur France 2, à laquelle il était invité, et sa présence a été maintenue alors que l'invitation remontait à juin, c'est-à-dire avant ses révélations. Et c'est là que l'affaire littéraire devient une affaire médiatique. Pour en parler, avant d'aller en Espagne, je vais recevoir Joseph Confavreux. Vous êtes journaliste à Mediapart, bonjour.
Bonjour.
Et Renaud Revel, journaliste au JDD, bonjour Renaud.
Bonjour Philippe.
Alors si vous pensez qu'on en fait trop avec cette affaire qui ne concernerait qu'un microcosme, je voudrais vous citer le titre d'un très long article. C'est dans El País, le plus gros quotidien espagnol. Je lis le titre et je demande pardon pour mon accent. Un escandalo antisémita agita, ou arita, je sais pas comment on dit, ou agita, la rentrée Francesca. Bonsoir, bonjour Henri Delaguerie.
Bonjour Philippe.
Pardon pour l'accent, vous êtes en direct avec nous depuis Barcelone. Vous êtes notre correspondant, le correspondant d'Europe 1 en Espagne. Que dit-on en Espagne de cette affaire et comment se fait-il qu'elle ait franchi les Pyrénées?
Ben écoutez, elle a sans doute franchi les Pyrénées parce que c'est devenu une énorme affaire en France et l'Espagne suit avec attention ce genre de...
Ah, on a perdu Henri Delaguerie, on l'a perdu, est-ce qu'il est ici?
Je suis là, pardon, alors, c'est que j'ai un mauvais retour. Je vais continuer, le journal finalement explique que les dessins de jeunesse de l'écrivain qui a des origines espagnoles et plus précisément catalanes font l'objet d'âpres débats dans les médias. Et pour El País, cette affaire est, je cite, un spectacle typiquement français. Ce n'est pas une critique hein, pour quand El País dit ça, bien au contraire. Plus loin, on peut lire, il n'y a qu'en France, l'un des derniers pays où des émissions littéraires sont diffusées en prime time et où certains écrivains sont considérés comme des rockstars que l'on peut assister à de telles polémiques. Alors c'est vrai, moi que c'est décrit comme un poète maudit, un adolescent tourmenté, et le journal revient sur son passage sur France 2 samedi, la lettre parisienne de son frère, et évidemment sur les dessins publiés par l'Express. Je vous lis encore un extrait.
Allez-y.
Ce qui n'était qu'une triste et dramatique histoire de famille, écrit le journal, est devenu un scandale national après la diffusion de ses dessins et de ses liens passés avec l'extrême droite. Et figurez-vous, Philippe, qu'il n'y a pas qu'El País qui en parle, un autre quotidien ABC, c'est l'équivalent ici du Figaro, évoque l'affaire et rappelle que Moix avait déjà créé la polémique il y a quelques mois en disant qu'il ne pouvait pas aimer une femme de plus de 50 ans.
Merci beaucoup Henri Delaguerie. Vous êtes à Barcelone. Moix, je me suis laissé dire que ça voulait dire quelque chose en catalan.
Oui, alors en catalan on dit moix et ouais. Moix ça veut dire chat. Et figurez-vous que Philippe, que Yann Moix, il a des liens évidemment avec Barcelone parce que son père est né à Barcelone. Et Yann Moix, c'est un neveu d'un écrivain qui était très connu ici, Terenci Moix, qui est décédé il y a quelques années.
Merci beaucoup Henri Delaguerie à Barcelone. À très bientôt. Joseph Confavreux, je me tourne vers vous. Vous êtes journaliste à Mediapart, je l'ai dit. Vous avez signé un long papier intitulé Yann Moix. Pourquoi tant de complaisance? Avant qu'on rentre dans le détail, un peu la même question qu'à Henri. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette affaire? On n'attend pas Mediapart sur ce terrain-là.
C'est exact. Et d'ailleurs, la semaine dernière, quand a commencé la querelle, enfin au-delà de ça, le déchirement familial, on ne s'y est pas intéressé. C'est vrai qu'il y a de moi que ce n'est pas complètement notre tasse de thé. Ce n'est pas un écrivain qui nous intéresse beaucoup. Et on s'est dit que ça restait quelque chose qui n'intéresserait pas nos lecteurs. Mais c'est vrai que ce week-end, il y a eu une telle tire de barrage de quand même à la fois une faillite du service public pour moi dans On n'est pas couché, le fait que des gens comme Bernard-Henri Lévy, Denis Oliven, tout l'état-major de Grasset se mettent à défendre Yann Moix, à l'absoudre immédiatement, à faire un procès en réhabilitation immédiat, ça nous a choqués. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire ce papier en s'interrogeant pourquoi tant de complaisance pour Yann Moix alors que il y a d'autres cas de comme ça de soulèvement de passé antisémite qui déclenche où on réhabilite pas comme ça les gens immédiatement.
On va tenter de répondre à cette question. Hier, Joseph Confavreux, vous avez regardé Laurent Ruquier qui était l'invité de C'est à vous sur France 5 et un passage vous a frappé, c'est quand évidemment il y a plein de questions sur Moix, c'est quand Ruquier évoque justement toutes ces questions sur Yann Moix, on écoute.
Il a reconnu les faits, il demande pardon. C'est beaucoup. Je trouve qu'à un moment, lâchez-le. Voilà, il a reconnu les faits. Vous n'êtes pas obligé de lui pardonner, vous n'êtes pas obligé de le croire, je ne dis pas ça, moi-même je n'en sais rien, mais lâchez-le, maintenant lâchez-le.
lâchez-le. Pourquoi vous avez demandé ce passage ?
Moi, il me semble intéressant ce passage, à la fois sur le ton. On voit bien que quand même Laurent Ruquier, il est gêné. Que commencer une nouvelle saison, une 14e saison dont on n'est pas couché, avec au fond autant d'erreurs, parce que voilà, il fallait pas inviter Yann Moix. Ou alors, en tout cas, si on invitait Yann Moix, il fallait l'interroger différemment. Il fallait pas l'interroger avec autant de complaisance. Donc, je trouve que le ton est intéressant, c'est-à-dire qu'il veut pas répondre aux questions. Il est énervé. Il était encore plus énervé dans l'interview qu'il a donnée à 20 minutes. Et l'autre raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait, c'est que je pense qu'effectivement, il faut lâcher Yann Moix. Là, ça, c'est une affaire qui est plus une affaire Yann Moix. C'est une affaire Grasset. C'est une affaire France Télé. C'est une affaire qui dépasse ça. Parce que moi, ce qui me gêne davantage que, évidemment, les écrits de Moix, mais tout ça, ça a été dit, redit et re-redit. Là, il a raison, Laurent Ruquier. Mais ce qui n'a pas été dit, c'est pourquoi est-ce que le service public a été aussi complaisant samedi dernier? Pourquoi est-ce que l'état-major de Grasset, qui sait depuis 2007 que Yann Moix a produit des textes et pas seulement des dessins négationnistes, n'a pas agi avant.
On va parler de Grasset tout à l'heure. Hier, Anne-Elisabeth Lemoine avait prévu de passer un extrait de l'émission On n'est pas couché. Ruquier a insisté pour qu'on passe à autre chose. Et ils sont passés à autre chose. Réaction.
C'est ça, c'est que c'est le service public qui parle d'une erreur du service public sans en parler. Enfin, sans en parler jusqu'au bout. Donc là, on est quand même face à des failles qui sont à la fois des failles générales de la télévision avec un côté, on mélange le spectacle et l'information, et aussi là, à mon avis, des failles vraiment de on n'est pas couché avec le rôle de Catherine Barma, donc on pourra peut-être reparler.
Et la productrice, Renaud Revel, vous êtes journaliste au JDD, vous avez des infos de première main à nous donner. Vous avez contacté, vous avez été en contact hier avec des cadres de très haut niveau de France Télévisions qui en off disent que l'émission a été mal vécue. L'émission On n'est pas couché de samedi soir.
Oui, mal vécu, mais très très mal vécu. Et même, on est aussi sévère que l'est votre invité. Hein. On parle de lien de connivence, de consanguinité, de lien incestueux entre Yann Moix, Laurent Ruquier et ses deux chroniqueurs, François-Olivier Gisbert et Adèle Van Riet. Et ils sont très très durs parce qu'ils ont découvert cette émission 3 ou 4 heures avant sa diffusion. Ils ont effectivement eu l'enregistrement. Et là, les dirigeants de France Télé que j'ai au téléphone sont tombés de l'armoire. Ils ne s'attendaient pas à autant de complaisance. Ils estimaient effectivement que ils estiment que Ruquier n'a pas fait son boulot, que l'émission n'est pas à la hauteur de la polémique et que c'est tout à fait indigne que France Télé puisse diffuser un tel programme. Alors aujourd'hui, Ruquier...
Avant cela, Renaud, je vais vous poser une question. L'émission a été enregistrée le vendredi soir, pour être diffusée le samedi soir. Pourquoi n'ont-ils pas demandé des coupes ?
Non, parce qu'ils l'ont eu très tard. Ils l'ont eu 2 ou 3 heures avant sa diffusion et puis ils laissent une liberté de ton absolue, en tout cas de production absolue, à Catherine Barma, à Laurent Ruquier. C'est très tradition, on ne touche pas ce programme. Toujours est-il, encore une fois, que les dirigeants de France Télévisions aujourd'hui sont extrêmement agacés par cette polémique, d'autant qu'on est à 8 mois de l'expiration du mandat de Delphine Arnault. On ne veut pas de vagues à France Télé. Et cette affaire en fait.
Le Monde avait révélé qu'une cellule de crise s'était tenue mercredi matin au siège de France Télé, après la révélation des écrits antisémites de jeunesse de Yann Moix. Il y avait un bras de fer entre Catherine Barma, la productrice, et Takis Candilis, numéro 2 de France Télévisions. Et la direction, écrit Le Monde, a fini par céder. Selon vos infos, pourquoi ont-ils cédé ?
Ils ont cédé parce que Ruquier est omnipuissant, effectivement, que l'émission est installée depuis très nombreuses années, qu'elle marche plutôt pas mal, c'est une grande marque, et Ruquier fait partie, je dirais, des icônes, en tout cas, intouchables de cette maison. Mais aujourd'hui, encore une fois, les propos sont extrêmement sévères.
On va parler aussi de la déflagration dans le monde de l'édition avec nos invités, restez avec nous.
Europe 1. L'infomédia du jour avec la suite de l'affaire Yann Moix n'est-elle pas en train de devenir la polémique Ruquier, la polémique France Télé ? Vous continuez à en parler, Philippe Bondel, avec vos invités dans un instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
L'infomédia du jour avec les suites de l'affaire Yann Moix dont vous nous parlez, Philippe Vandel, avec vos invités, Renaud Revel du JDD et Joseph Confavreux de Mediapart.
Je me tourne vers vous, Joseph Confavreux. Votre papier dans Mediapart sur l'affaire est intitulé ainsi: Yann Moix, pourquoi tant de complaisance ? Double question, quelles sont ces complaisances et quelle est votre explication ? Pourquoi ? D'abord, quelles sont ces complaisances ?
Ces complaisances, c'est par exemple la manière dont Bernard-Henri Lévy, dimanche matin, accorde son pardon à Yann Moix. Et en disant croire au repentir et à la réparation. Moi, je crois effectivement aussi au repentir et à la réparation. Mais je me suis souvenu de l'affaire Mehdi Mekhlat, donc du nom de ce jeune homme dont avaient émergé des tweets également antisémites. Et à ce moment, Bernard-Henri Lévy écrivait dans ce même bloc-notes « Rien dans l'affaire Mekhlat ne peut être considéré comme excusable, ni ses tweets haineux, ni les soutiens reçus, ni le silence de ceux qui savaient. »
Oui, alors que là, dans le point au sujet de Yann Moix, il faut dire qu'ils sont tous les deux dans la la maison Grasset. BHL écrit « Je crois au repentir, je crois à la réparation. Et quand on nomme tout homme donc aussi, un écrivain donne l'épreuve de sa volonté de rédemption. Quand il s'engage avec probité dans le corps à corps avec ses démons, je pense qu'il est juste de lui en donner acte, de lui tendre loyalement la main et si l'on peut, de l'accompagner. » Fin de citation.
Moi, je pourrais tout à fait être d'accord avec cette position, mais s'il n'y avait pas deux poids, deux mesures. Et donc, si on faisait la même chose avec Yann Moix qu'avec Mehdi Mekhlat, et je n'ai pas envie de défendre Mehdi Mekhlat, hein, qui a aussi un passé antisémite comme Yann Moix, mais là, ça me choque d'autant plus la double mesure, c'est qu'on est face à un vrai problème d'antisémitisme en France. Ça existe, c'est un poison, et qu'on a là, avec Yann Moix ou Bernard-Henri Lévy, des gens qui ne cessent de faire la police de l'antisémitisme, et quand ça les touche eux-mêmes, et ben là, on dit, oui, c'est bon, ça peut être pardonné, c'était pas si grave, c'est grave, mais depuis, il a évolué.
Est-ce que, comment vous l'expliquez, est-ce que c'est une simple affaire de business, pardon de dire ça, parce qu'ils ont le même éditeur, ou est-ce que c'est plus profond que ça?
Je pense qu'en l'occurrence, c'est plus profond que ça, que les liens entre Yann Moix et Bernard-Henri Lévy sont plus profonds. Mais je pense aussi que il y a aujourd'hui vraiment un brouillage des cartes où des gens préfèrent attaquer au nom de l'antisémitisme des gens qu'ils considèrent comme leurs adversaires politiques, comme le fait souvent Bernard-Henri Lévy, plutôt que d'être honnête et rigoureux. Alors que moi, je pense que la lutte contre l'antisémitisme, elle ne se divise pas. Il faut être aussi... avoir autant de rigueur vis-à-vis de quelqu'un comme Yann Moix que quelqu'un comme Mehdi Mekhlat ou quelqu'un, vous vous souvenez de cette mannequin de L'Oréal à Menakan dont on avait ressorti des tweets contre Israël au moment du bombardement de Gaza. Elle a été immédiatement débarquée de la campagne de pub. Donc c'est juste, pourquoi est-ce qu'on fait deux poids deux mesures? Moi, je suis pour qu'on soit rigoureux et implacable sur l'antisémitisme pour tout le monde.
Vous relevez même la réponse qu'a faite Olivier Nora, le patron des éditions Grasset, au sujet la fameuse publication Ushuaïa.
Alors moi, ça, il me gêne pour deux raisons.
Dites ce qu'il a dit d'abord.
Il a dit, je l'ai évoqué, un fanzine lycéen lu par 15 personnes. Déjà, c'est un journal étudiant. Alors peut-être qu'il était lu que par 15 personnes, mais Yann Moix avait 22 ans quand il l'écrit. Yann Moix, dans son dernier roman Orléans, il montre, et c'est vrai, à quel point il était précoce intellectuellement. Donc, ne nous faites pas croire que c'est une erreur d'un petit lycéen de 15 ans. Donc je trouve qu'il minimise, et surtout, il dit quand même quelque chose d'énorme. Il révèle ça comme ça au passage dans l'article du Monde, que il était au courant depuis 2007, de même que Jean-Paul Enthoven, de même que Bernard Henri Lévy, c'est-à-dire l'état-major de Grasset, savait qu'il y avait des écrits non seulement antisémites, mais négationnistes. Et ils n'ont rien fait.
Alors justement, Renaud Revel, autre contre-coup, pardon, de l'affaire Moix, dans la maison Grasset, l'éditeur Yann Moix, Nora, vient de le dire Joseph, le patron, BHL et Jean-Paul Enthoven étaient au courant de ces écrits, et vous dites que le personnel est vent debout contre ce trio, la haute direction de cette vénérable maison.
Vent debout et branlé, hein. Nos dirigeants pouvaient-ils dissimuler le passé antisémite de Yann Moix, et pourquoi l'état-major de Grasset a-t-il choisi de les taire? Et c'est vrai qu'en interne, on est totalement, non seulement abasourdi, mais très en colère, parce que ils ont découvert dans le Monde, effectivement, que Nora savait pertinemment et connaissait ses dessins et ses écrits depuis 2007, vous l'avez dit, et eux-mêmes ont découvert que l'ensemble de la direction de Grasset était parfaitement au courant. Et ça jette un discrédit sur cette maison, prestigieuse maison d'édition, au point que les salariés que je téléphone, hier, ont décidé même de convoquer une assemblée générale dans les jours qui viennent pour avoir des explications, parce que tout ça, en interne, c'est une question presque taboue. Hein. Depuis quelques jours, on ne parle pas de l'affaire Yann Moix. En revanche, tout sort d'abord dans le Monde, vous l'avez dit.
Puisque vous dites que vous les avez eu au téléphone, pardon Joseph, est-ce qu'ils ont réussi à croiser leur patron à la machine à café dans un couloir et demander des explications, ou est-ce que tout cela est tu dans la maison Grasset?
À l'heure d'aujourd'hui, non, mais ils réclament effectivement des explications publiques en interne. Donc il y aura sans doute des réunions dans les jours à venir. Vous savez, la maison Grasset, c'est une chapelle. Hein. BHL, Nora, Eindhoven, c'est un petit club. Et c'est une maison très secrète et discrète, très grande maison. Mais aujourd'hui, encore une fois, pour la première fois, c'est rare dans une maison comme celle-là, les équipes, les salariés demandent maintenant clairement des explications.
Joseph Confavreux.
Et juste un détail, mais qui n'en est pas un, c'est que qui a publié le livre de Mehdi Mekhlat après l'affaire Mehdi Mekhlat, qui s'appelle Autopsie, ce sont les éditions Grasset qui ont demandé à Mehdi Mekhlat d'écrire un livre d'explications. Donc en 2007, à minima, l'état-major de Grasset aurait pu dire à Yann Moix, qui est un écrivain, empare-toi de ce passé honteux et fais-en un livre.
Dans votre papier, vous dénoncez, ou vous accusez, ou vous pointez du doigt le milieu germano-pratin, ça veut dire Saint-Germain-des-Prés, qui veut dire à la fois un peu la France d'en haut, à la fois les milieux littéraires, les acteurs, les actrices, des gens comme ça. Et on a pu entendre Yann Moix défendu par diverses personnalités, y compris sur le plateau de 7 à vous, Yann Moix défendu par Catherine Deneuve.
Mais il a demandé pardon. Donc c'est vrai qu'il reconnaît avoir fait une chose monstrueuse et il s'en excuse donc 25 ans plus tard. Je comprends Bernard Lévy qui dit qu'on accorde son pardon à quelqu'un qui le demande avec autant de sincérité.
Réaction. Moi, ça me semble déflagratoire de protéger comme ça quelqu'un du milieu. On a aussi entendu Denis Oliven, dont, que les auditeurs connaissent, mais dont je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le président du conseil de surveillance de la société de Daniel Kretinsky, qui devient l'homme le plus puissant quasiment des médias français, comparer le parcours de Yann Moix à celui de Daniel Cordier, l'immense résistant gaulliste, en disant, après tout, lui aussi était antisémite dans sa jeunesse, et il a évolué. Oui, sauf que déjà, Daniel Cordier est un vrai résistant, et la Shoah n'avait pas eu lieu. Donc là, avec Yann Moix, on parle non seulement d'un antisémite, d'un passé antisémite, mais d'un passé négationniste. Donc moi, de voir tout ce petit monde se mettre à défendre un des siens, puisqu'on ne peut pas dire ça autrement, je pense que c'est déflagratoire parce que ça alimente l'extrême droite, ça alimente l'idée qu'il y a un petit monde, et en plus un petit monde avec des juifs, donc ça fait vraiment l'effet contraire de ce qui devrait être fait pour, si on veut vraiment lutter contre l'antisémitisme.
Malheureusement, l'affaire Yann Moix, on risque d'en reparler, et pas seulement ici. Merci beaucoup Joseph Confavreux, journaliste à Mediapart, merci Renaud Revel, journaliste au JDD, d'avoir été avec nous ici en direct sur Europe 1.
Europe 1. Et notre invité média est arrivé. Il fait sa rentrée ce soir sur France 5 aux commandes de la Grande Librairie. Il vient nous en parler. François Bunel est l'invité de Culture Média sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe Vondel, on accueille François Bunel.
Bonjour François Bunel.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous présentez la Grande Librairie sur France 5, c'est le mercredi désormais en prime time, donc ce soir à 20h50. Ce soir à 20h50, vous repartez pour une 11e saison.
12e.
12e, pardon, j'avais écrit 12 et j'ai lu 11.
C'est, ouais, oui,
j'ai un problème aujourd'hui avec les chiffres.
J'ai beaucoup, vous me rajeunissez.
Ouais, avec un hommage à Toni Morrison, prix Nobel de littérature, morte il y a un mois, le 5 août dernier. Plusieurs invités et ES, Amélie Nothomb, Monica Sabolo, Cécile Coulon, Julia Deck. Il devait y avoir l'écrivain Yann Moix, il s'est décommandé quand et sous quel motif?
Il ne devait pas y avoir Yann Moix ce soir, Philippe Vandel. Je ne sais pas d'où vous tirez vos informations, mon petit Philippe.
La presse.
Alors la presse devrait faire un peu son travail, c'est un peu ce qu'on peut lui reprocher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regardez, on est dans la dictature de l'émotion, du commentaire hâtif. Il faut travailler, mes amis. Je devais recevoir Yann Moix la semaine prochaine, le 11 septembre, et certainement pas sur la première émission.
D'accord.
C'est important, parce que
bien sûr, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, regardez, dans cette affaire où tout le monde s'emballe, les gens veulent parler. Et à force de parler, ils réfléchissent plus. On veut tweeter, on veut tout de suite dire un truc, avoir un commentaire, donner une info. Mais de grâce, est-ce que l'on peut faire, vous savez, comme dans les cours de récré, puisque ça commence aujourd'hui, croix. Allez, on pense, on essaye de calmer le jeu, comme au foot. Hein. À un moment, ça sert à rien de se précipiter, vous marquerez pas le but. Je voudrais qu'on suspende un tout petit peu le jugement.
Et moi, il n'y a pas de jugement, c'est juste des infos.
Oui. Non, je comprendrais c'est bien. Important alors, parce que de toute façon, je ne voulais pas l'inviter sur la première émission. En revanche, je voulais l'inviter pour plusieurs raisons. La première, c'est que le livre, dans sa première partie au moins, est formidable. Yann Moix est un personnage difficile, curieux, exagéré. J'aime les gens exagérés, pas à ce point-là. Et entre-temps, Yann Moix est devenu ce qu'on appelle un invité plus comme les autres. Pour les raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, les auditeurs les connaissent, je suis exactement sur la ligne de Jérôme Dupuis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout ça existe, il faut le questionner, c'est-à-dire poser toutes les questions. Donc on aurait commencé ce soir, comme on va le faire d'ailleurs, avec ce plateau qui était prévu, les écrivains, les romancières, la fiction, la lecture, le plaisir de la lecture, et puis la semaine prochaine, oui, sur un thème d'ailleurs, hein, la mère bourreau, la mère sainte, parce qu'il y avait face à Yann Moix quatre autres écrivains. Je pense qu'on aurait sans doute passé un bon moment de télévision à parler non plus de ces sujets littéraires, mais d'un sujet tout de même brûlant qui est celui de cet antisémitisme et ce révisionnisme, ce négationnisme, qui est une ligne rouge. Yann Moix a décidé, et c'est son choix, de ne pas venir. Fin de l'histoire.
Il vous a donné ses motivations?
Non. Mais je n'ai pas à les connaître, d'ailleurs. Je respecte totalement les
bien
invités,
sûr.
Vous savez.
C'est
un
juste
écrivain
pour savoir.
Qui ne veut pas venir.
Il a dit « je ne viens pas parce que ».
Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et encore une fois, ça ne me dérange pas. Je trouve, de vous à moi, d'ailleurs, qu'il a raison. Yann Moix, c'est quelqu'un... Je ne suis pas Philippe, vous le savez. Là-dessus, je suis comme vous. Je suis journaliste. Journaliste, ça ne veut pas dire procureur. Ça ne veut pas dire avocat de la défense. Ça ne veut pas dire non plus juge aux affaires familiales ou juge à la 17e. J'aurais eu des questions à poser. Beaucoup. qui n'ont pas été posées à mon sens. Mais là, en l'occurrence, elles ne le seront jamais. On ne va pas faire de la science-fiction et parler, vous et moi, d'une émission qui n'aura pas lieu. Parlons de celles qui vont avoir lieu.
Vous vous définissez justement, François Bunel, comme journaliste littéraire. Vous posez les questions qu'il faut poser. C'est vous qui l'avez dit, qui n'ont pas toujours toutes été posées. Quelle différence vous faites avec un critique littéraire ?
Ah, c'est très simple. Et c'est passionnant. Le critique littéraire, c'est celui qui sait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous lisez une critique littéraire, c'est bien ou c'est mal. Généralement, quand on veut être un peu brillant, on dit c'est nul ou c'est formidable. C'est-à-dire qu'il sait. Il est né en sachant. C'est un sachant. Voilà. Je ne sais pas d'où il vient, ce savoir, mais il sait tout. Moi, je ne sais rien. Je ne sais pas ce qu'est la littérature. Mais comme tout le monde, comme vos auditeurs, j'essaye de comprendre, j'essaye de savoir. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre un cabinet de curiosité. Toutes les semaines, à heure fixe, gratuitement et pour tout le monde sur le service public, et je pose la question, sous différentes formes, mais au fait, qu'est-ce que c'est que la littérature ? À quoi ça sert ? Et vous voyez, la collection de toutes ces réponses depuis 12 ans le mercredi, à raison de 4 ou 5 invités, me permet toujours pas de savoir, mais enfin j'ai une petite idée de ce que ça n'est pas.
Il y aura ce soir un hommage à Toni Morrison, je l'ai dit, prix Nobel de littérature, décédé il y a un mois. Vous étiez amie avec elle, vous la connaissiez. Pour qui ne l'aurait jamais lu ? Qu'est-ce que vous pouvez en dire, j'arrive à le prononcer, en très court.
En très court, je ne suis pas noir, mais avec Toni Morrison, je le suis devenu. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, je ne suis pas dans la peau d'un noir. En ce moment, on parle beaucoup de l'appropriation culturelle. En parlant des écrivains, on oublie le lecteur. Le lecteur, l'auditeur qui nous écoute là en ce moment et qui veut savoir ce qu'est la condition d'une femme esclave noire et le comprendre autrement, vous savez, qu'avec des discours de spécialistes, le ressentir de l'intérieur, dans ses tripes, dans ses yeux, à la gorge nouée, il lit Beloved de Toni Morrison et sa vie change. En gros et en un mot, elle a changé notre rapport à l'histoire. Ce que l'on savait, de façon intellectuelle, on le touche de façon tripale et sensuelle. Voilà. De même qu'en lisant Elie Wiesel, moi qui ne suis pas juif, j'ai compris ce qu'était être juif à 16 ans dans les camps de la mort.
Toni Morrison, vous l'aviez interrogé.
Et Elie Wiesel est publié chez Grasset.
Toni Morrison, c'est vous qui revenez au sujet. Toni Morrison, vous l'aviez interrogée chez elle à New York, c'était l'an passé. Elle était déjà malade, elle était intubée, ça se voit à l'image, je le dis pour nos auditeurs.
Elle avait voulu, pardonnez-moi, c'est incroyable, c'est un acte de courage dingue. Elle était, vous avez raison, intubée, et elle avait voulu être filmée comme ça pour montrer ce que c'est que se battre jusqu'au dernier souffle.
Et elle parlait, notamment l'extrait qu'on a choisi, parce qu'il fallait faire court, elle parlait d'écriture.
Les romans, la fiction sont toute ma vie. C'est là que je vis. C'est ce qui fait que je suis moi, à la fois comme les autres et pas comme les autres. Voilà ce que cet art représente pour moi.
Vous avez un grand sourire tendre, François Bunel.
Et c'est, oui, parce que... Bah oui, parce que d'abord, c'est une femme, je vous l'ai dit, qui... pour moi, reste une des très grandes romancières. Je pense que, socialement, on a dit beaucoup de choses sur Toni Morrison. Elle a fait énormément, par exemple, pour faire avancer les droits civiques aux États-Unis. C'est une icône, Philippe. C'est la disparition d'un séquoia, d'un chêne immense dans la forêt américaine, et pas seulement littéraire. C'est la marraine, vraiment, des droits civiques. Mohamed Ali n'aurait jamais écrit ses mémoires sans elle. C'est elle qui lui a fait écrire. Angela Davis, dans les années 60, n'aurait jamais écrit. Et donc, la libération de la femme noire n'aurait pas eu lieu. Vraiment, je le crois. Et puis par ailleurs, oui, elle avait eu la gentillesse de me considérer comme quelqu'un à qui on pouvait parler.
Mais à la différence du séquoia qui a disparu, on peut trouver encore ses livres. La Grande Librairie est l'émission la plus prescriptrice en matière de livres, devant Télématin, devant N'est pas couché. Comment vous situez par rapport au talk show ? En même temps, je connais déjà votre réponse.
Eh bien,
de ce que vous avez dit de l'émission du samedi soir, sans la nommer.
Ah non, bah, c'est pas sans la nommer, non, pas du tout. Encore une fois, attendez, ce que j'ai dit n'est pas, je voudrais qu'on soit clair, ce que je viens de dire n'est pas une critique.
J'ai compris.
De ce que fait Laurent Ruquier, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, j'ai énormément d'admiration aussi pour Adèle Van Rett. Je tiens à le dire. Je dis simplement que j'aurais fait autrement, mais comme eux ont fait autrement, voilà, il n'y a pas de... Bon, le talk show, d'ailleurs, La Grande Librairie s'en est un. Simplement, l'idée, c'est de laisser la parole aux écrivains parce qu'on ne les entend nulle part.
Magnifique.
Europe 1. Il fait sa 12e rentrée ce soir sur France 5 avec La Grande Librairie. François Bunel est l'invité de Culture Média sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Ce matin, dans votre radio, on parle littérature à la télé avec Philippe Vandel et son invité François Bunel.
François Bunel qui sera ce soir à 20h50 pour le retour de La Grande Librairie. C'est sa 12e saison. et 11e saison, je sais plus.
12e.
12e, parce que sur le dossier de presse, il y a écrit 11, ouais. Donc je suis perdu. Quand je lis une chose, moi, je reste comme ça. C'est le vôtre, alors faites pas le malin. Plusieurs invités ce soir, évidemment, un hommage à Toni Morrison avec des interviews exclusives qu'elle avait faites spécialement pour vous et que vous allez repasser. Vous rallongez un peu l'émission.
Oui,
pour ça.
France Télévisions nous donne un quart d'heure de plus, donc on en profitera pour montrer le meilleur de ces émissions. En fait, depuis 2008, on l'a interrogée, je crois, 5 fois chez elle à New York.
Plusieurs invités EES, que des filles, Amélie Nothomb pour Soif, Monica Sabolo pour Eden, Cécile Coulon pour Une bête au paradis, Julia Deck, propriété privée, c'est le titre de son roman. Mmh. C'est un choix d'avoir que des filles ce soir ou c'est, ça s'est fait comme ça?
Ça a l'air de vous choquer.
Ça me choque pas, je suis choqué, ça me surprend.
Ah bon?
Ben oui, il y a pas la parité. L'objectif, c'est la parité maintenant.
C'est fou ça.
Mais pour une fois que c'est dans l'autre sens.
Ouais, en tout cas, c'est drôle.
Je veux dire une chose.
Est-ce que vous auriez fait la remarque, mon cher Philippe, s'il y avait eu que des hommes?
Bien sûr. Ah, j'aurais dit alors où sont les femmes?
Mmh. Ouais. Donc bien encore, sûr. En fait, s'il y a des hommes, vous dites où sont les femmes? Il y a des femmes, vous dites où sont les hommes?
Bien sûr. La question est où est la parité?
Je peux être. Est-ce que je peux être politiquement incorrect 2 secondes?
Au contraire.
La parité, je m'en fous. On parle de littérature. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes en dehors des sentiers balisés du correct? Je vous parle de livres qui vont vous faire votre semaine et vous emmener mais tellement loin que vous en oublierez ces petits débats très secondaires. La parité, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on met, comment on fait en sorte qu'il y ait une égalité. Et bien l'égalité, c'est l'égalité de talent. Quand elle est là, tant mieux. Quand elle n'est pas là, tant pis.
J'allais
et ce soir, je trouve qu'il y a 4 romancières formidables. Les 4. Alors, à des degrés divers. Il y a des livres qui plairont à différentes
J'allais vous demander,
oreilles,
justement, comment vous les choisissez, vos invités. Vous avez répondu pour partie. Pourquoi Cécile Coulon, par exemple?
Ah, je l'adore, Cécile Coulon. Et je pense d'abord...
Je vais vous dire pourquoi je vous en parle.
Ouais,
alors, parce que j'ignorais son nom. Je ne la connaissais pas. Et tout d'un coup, je l'ai vue partout. Elle était sur France Culture une matinée. Elle était passionnante. Il y avait un grand papier
c'est
dans
vrai,
le monde.
C'est vrai, vous ne connaissiez pas. Mais c'est pas grave. Regardez, justement,
non,
la grande librairie vous prend par la main.
Mais non, pourquoi une personne arrive
découvrir.
Tout d'un coup en cette rentrée 2019.
Alors, elle arrive en étant partie de la grande librairie. C'est ça que j'adore en plus. C'est, je pense, dans les 3 grands coups de cœur de ma rentrée. Ça fait partie des 3 livres que j'ai préférés au cours de l'été sur la rentrée littéraire. J'adore ce livre. C'est un conte cruel, glaçant, extraordinairement tenu. Les amateurs de polar adoreront. Ceux qui n'aiment pas le polar vont se régaler. Ceux qui aiment la littérature, la grande, la belle, vont être scotchés. Et puis, il y a une autre raison, c'est que Cécile Coulon a fait ses débuts, il y a 10 ans, dans une émission sur France 5 qui s'appelait La Grande Librairie.
Combien de livres vous lisez par semaine? Question que tout le monde se pose.
Ça dépend des semaines et ça dépend de la taille des livres. Mais en fait, je lis toute la journée. D'accord. Je lis tous les matins, voilà, de 8h à 14h, pour tout vous dire. Je ne déjeune pas, y compris avec le petit milieu dont vous parlez tout à l'heure, qui me le reproche beaucoup, mais peu importe. Et puis ensuite, je relis l'après-midi, je vais marcher. Et puis après, j'appelle mes équipes. Je passe de temps en temps au bureau où j'ai une équipe formidable qui prépare les sujets que vous voyez, qui prépare également les surprises. Parce que ce soir, il y aura des surprises. Je peux peut-être vous donner un indice.
Dites.
Elle n'est pas au courant, mais l'une des invitées aura la surprise de voir débarquer quelqu'un que vous, Philippe Vandel, et les auditeurs d'Europe et les anciens auditeurs de Canal+ connaissent bien. Ça, c'est pas du teasing.
Bah, c'est du coup, j'arrive plus à enchaîner parce que je suis en train de chercher dans ma tête.
Autre actualité,
François Bunel, une série documentaire en 10 épisodes sur Arte. Ça sera du 22 septembre au 20 octobre. 2 épisodes le dimanche à 13h. Donc, ça va être 5 fois par dimanche. Mmh. Les grands mythes, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'on va voir?
C'est très simple. Les grands mythes, ça consiste à essayer de raconter la mythologie grecque d'où tout est parti, comme un polar. Comme Game of Thrones, pour faire simple, et le type qui se mouche absolument pas du pied, du coude.
Non, mais il y aura de la 2D, de la 3D,
en fait, ce que je trouve génial,
il y aura plein d'images.
Oui, ce que je trouve formidable dans les séries, depuis qu'elles apparaissent, c'est qu'elles nous permettent de réécrire, alors pas en mieux, mais en différent, vous voyez, avec un sens du rythme, avec une construction qui tient en haleine le téléspectateur, même si au fond, il pense que ça n'est pas pour lui. Et je trouve que c'est ça qu'il faut appliquer à la culture, c'est-à-dire... Souvent, j'entends des gens dire « Mais vous savez, monsieur, la lecture, c'est pas pour moi. » Mais si, c'est pour vous. Simplement, nous ne savons plus, nous avons désappris à vous intéresser. Et moi, j'essaye juste de réapprendre. Vous voyez, je regarde mes 2 étoiles polaires. L'étoile du Nord, c'est Bernard Pivot. L'étoile du Sud, c'est Jacques Chancel. Au milieu, il y a Philippe Labreau. Je regarde tout ça et je me dis « Mais en fait, si j'aligne tout, j'arrive peut-être à intéresser les gens si j'y injecte aussi le sens du rythme qu'est celui de la série » qui nous vient des États-Unis. Et les grands mythes, c'est ça. Je reprends la mythologie, je vous la raconte comme un polar.
Et si je dis pas un thriller. Et si je dis pas une bêtise, Game of Thrones, c'est en partie inspiré des Rois Maudits.
Exactement, c'est même très inspiré des Rois Maudits.
En 2003, François Bunel, vous aviez publié Mythologie grecque, c'était au Seuil. Le Figaro vous posait la question, pourquoi écrire aujourd'hui une mythologie grecque? Et c'est votre réponse qui m'a vraiment étonné, parce que j'aime les contre-cultures. En quoi c'est une contre-culture? C'est la culture, la mythologie grecque, non?
Vous rigolez. La mythologie grecque comme culture.
Je savais que ça ferait une bonne question, ça.
Mais oui, c'est... Non, mais attendez, je peux répondre?
Bien sûr.
Alors attendez, mais.
Non, je pose des questions et après vous cassez. Mais bien sûr, répondez, François Bunel.
Alors, donnez-moi, allez, une minute.
Ouais.
Alors,
une minute.
Une, pas plus. Un, la mythologie grecque comme culture, c'est du ripolin appliqué sur le plus subversif des romans d'aventure. Deux, à chaque fois. Depuis les Romains, on a tenté de pasteuriser cette mythologie qui raconte quoi en réalité? La sexualité débridée, la prise de pouvoir avec inceste, négationnisme, volonté de massacrer son précédent et notamment son frère et sa sœur. Et tout cela, trois, a été depuis les Romains jusqu'à aujourd'hui, en passant par Louis XIV, en passant par le romantisme, vraiment ripolliné. C'est-à-dire qu'on a atténué, on a dit oui, il y a des yeux qui se métamorphosent. Mais non, pas du tout. Et par ailleurs, il y a les ferments de l'athéisme dans tout cela. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est de raconter en contre-culture avec effectivement le sexe, la drogue et le rock'n'roll, parce que croyez-moi, c'est rock, c'est punk, la mythologie grecque.
Sexe, drogue, rock'n'roll, ce soir, c'est à la Grande Librairie à 20h50. Je ne sais pas si ça va défourailler comme vous venez de le faire. Merci beaucoup, François Bunel, d'avoir été avec nous.
Merci, Philippe.
Et Culture Média, ça continue, Philippe.
Et oui, Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture, quoi qu'on en parlait déjà. Le cinéma français et cette vieille putain fardée à la peau flétrie. Elle a trop de protecteurs. Ce scud est signé Eric Neuhoff, l'écrivain et critique de cinéma, dans son livre Très cher cinéma français. Il sera notre invité. Et puis, dans les indispensables, Nicolas Caro s'arrêtera sur la gagnante du prix Roman Fnac 2019. Elle s'appelle Bérangère Cornu. Quant à Louise Bernard, elle nous dira tout des expos à ne pas rater en cette nouvelle rentrée.
La suite de Culture Média, c'est dans un instant sur Europe 1.